Bonjour Gloria Origi.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous venez de publier « La vérité est une question politique » chez Albin Michel. Vous avez publié sur la notion de réputation, sur la notion de confiance, sur les passions sociales. Tous ces sujets sont liés et vous amènent donc aujourd'hui à cette question, la vérité comme sujet politique. On va commencer par un thème d'actualité. L'Europe vient de mettre au point, à destination des élèves, des jeunes, une boîte à outils numériques qui leur permettent de lutter contre les fausses informations en vue d'affûter leur esprit critique. Faut-il multiplier ce genre d'initiative ?
Absolument, je suis tout à fait pour multiplier les initiatives sur l'esprit critique. Il ne peut que faire du bien aux jeunes, aux élèves. Et la France, d'ailleurs, avait, avec le ministre Jean-Michel Blanquer, avait travaillé beaucoup sur l'application de l'esprit critique à l'école, mais je ne pense pas que ça soit suffisant et je ne pense pas que ça soit la solution. C'est encore centrer notre capacité à comprendre sur l'individu, sur nos cerveaux. Et en fait, nous vivons une expérience fascinante et inquiétante d'intelligence collective. Et donc, il faut surtout combattre les environnements hostiles, les environnements digitaux qui sont hostiles, enfin, à l'accomplissement de cette intelligence collective.
Donc, et à la connaissance de la vérité.
C'est du côté des institutions. On a mis en place en Europe un Digital Service Act qui est très utile pour, obliger les institutions comme les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche à se préoccuper un peu plus de la qualité de l'information, se prendre plus de responsabilité sur l'information qui circule. Et donc, c'est de ce côté-là qu'on aura des solutions. Et il faut pas responsabiliser trop les individus. C'est comme une fourmi devant un tsunami, enfin, parce que c'est ça la taille, enfin, de la confrontation avec ce tsunami d'informations qu'on subit depuis désormais une vingtaine d'années. Et donc voilà, donc je pense que les deux choses doivent aller ensemble.
C'est la thèse de votre livre, est-ce que c'est ce que vous rappelez maintenant. Il ne faut pas mettre toute la charge de l'éducation critique sur l'individu, sachant qu'en fait, les institutions ont une responsabilité dans le partage de la connaissance, des savoirs. Et vous le dites, c'est la thèse du livre, la vérité c'est politique avant d'être individuelle. Et c'est ça qui est intéressant. Et vous partez de quelques exemples, deux exemples importants qui sont la guerre en Irak et la gestion du Covid en France avec le concours d'un conseil scientifique. Pourquoi vous avez choisi la guerre en Irak et la bataille contre le Covid pour nous parler de la vérité ?
Donc en fait, ce livre a été un peu conçu après l'expérience du Covid, qui est une expérience assez exceptionnelle pour nous tous, qui a créé un rapport à la vérité et qui était spécial. Ça veut dire que on peut dire que la plupart des gens se promènent sur Internet pour s'amuser, pour chercher des partenaires, mais pendant le Covid, on se promenait sur Internet pour chercher la vérité, enfin pour chercher des faits. On avait peur pour nos vies, pour les vies de nos proches. Donc, disons, ça a été d'un côté un usage d'Internet vraiment pour chercher des nouvelles, enfin pour se renseigner, et de l'autre côté, une exposition de la science qui est très rare.
À travers le conseil scientifique.
À travers le conseil scientifique, à travers les nouvelles scientifiques, il y avait la publication sur les médias traditionnels d'articles scientifiques que normalement restent dans la communauté scientifique, dont la science était exposée et elle a montré toutes ses vulnérabilités. Il y avait un rôle important des experts. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans ma vie professionnelle sur... je suis une experte d'experts. Enfin, je travaillais beaucoup sur qui sont les experts. Les experts sont un peu différents des scientifiques. C'est des gens qui sont nommés par un gouvernement, par une entreprise, pour donner leur avis et aussi pour donner des recommandations. Donc, on peut décider, de prendre les risques de ne pas faire un lockdown pour garder la liberté des citoyens et sur la base de mêmes données qui ont fait que d'autres experts ont décidé de prendre les risques d'enfermer la population. Enfin, donc, il y avait énormément de solutions qui étaient différentes. Les gens ne savaient pas non seulement évaluer les résultats scientifiques, mais ils ne savaient même pas évaluer l'expertise. Enfin.
C'est très important ce que vous venez de dire par rapport à ce que faisaient les gens sur Internet pendant la période du Covid. Vous dites, ils n'y allaient pas pour s'amuser, ils n'y allaient pas pour se divertir, entre autres, mais ils y allaient pour chercher la vérité.
Pour chercher des informations. Enfin,
et pourtant, il y avait un conseil scientifique composé d'experts avec tous les diplômes et avec toute la légitimité conférée par le politique.
Oui.
Et vous dites, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'on avait beau mettre face aux citoyens des gens surdiplômés qui avaient une expertise, une carrière dans tous les domaines qui concernaient le Covid, vous dites, eh bien, les citoyens allaient quand même chercher la vérité. Et c'est le cœur de votre livre, une critique de la technocratie. La technocratie ne sauvera pas la démocratie.
Ah, ça, je suis tout à fait sûr. Et donc, les gens ont toujours un problème lorsque l'autorité est établie par le haut. L'expert est nommé d'une façon assez opaque. On comprend pas pourquoi certains sont nommés, pas d'autres, et, etc. Donc, il y avait une vraie recherche disons, de vérité indépendante. Et là, en France, on a eu une figure sur laquelle j'ai travaillé beaucoup, qui était Didier Raoult. Enfin, c'était...
Il vous a passionné.
Ah bah, parce que il n'était pas un charlatan. Raoult n'est pas un charlatan. Il faut dire, si vous allez chercher sur Google Scholar son prestige scientifique, enfin, c'est son index des citations, les choses qui font qu'un scientifique est considéré un grand scientifique, il est un des plus grands scientifiques de France. Donc, comment les gens pouvaient savoir qu'il ne disait pas la vérité? Parce qu'il la savait pas, probablement. Je veux même pas dire que Raoult était quelqu'un qui était en train de mentir. Peut-être il croyait dans ses résultats, mais ses résultats étaient des mauvais résultats. Comment les gens pouvaient le savoir si, on n'avait pas un vaccin à l'époque? Les gens savent très peu, normalement, de qu'est-ce que l'hydroxychloroquine. Il disait que ça marchait sur ses patients et il était une super tête du point de vue scientifique. Comment le démasquer?
Gloria Origi qui publie La vérité est une question politique sur cet épisode de Didier Raoult, c'est très intéressant par rapport à la thèse que vous défendez dans votre livre, puisque le politique a mis en place un conseil scientifique tout en faisant Paris-Marseille pour aller chercher un peu de la légitimité scientifique
de
Didier Raoult, et on se souvient tous de la visite du président Macron à Marseille et dans le service de Didier Raoult. Ça doit aussi vous interpeller, ça, vous, l'Italienne qui regardait les Français se dépatouiller de cette affaire de Covid et cette remise en cause de la science, de voir que la politique a jonglé avec quelqu'un qui a été récusé par la suite, Didier Raoult, tout en mettant en place un conseil scientifique qui a été récusé, lui, par les partisans de Didier Raoult.
Plus qu'italien, je me considère une européenne. Et avec un ami économiste, on s'est amusé à faire un petit exercice sur qui étaient les membres des comités en Italie, en France et en Angleterre. Et en fait, vous voyez des ondes d'ombre, ceux qui inquiètent les citoyens. Normalement, on ne sait pas pourquoi ils sont élus. Certains ne sont pas vraiment si prestigieux comme on nous raconte. Et en Italie, c'était vraiment très opaque de les gens qui avaient été nommés. Donc le citoyen n'aime pas une autorité imposé qui n'est pas élu, qui détient la vérité et qu'il doit suivre sans contrôle. C'est pour ça que même dans un pays déjà intelligent comme la France, on a eu le 43% de anti-vax. De 43% d'anti-vax. Avec la Pologne, la France a été le pays d'Europe avec le plus haut taux d'anti-vax. Ce qui est incroyable quand même dans un pays de cette intelligence.
Gloria Origi, on arrive au terme de cet entretien. Je crois que l'exemple du Covid résume assez bien les problématiques qui se posent aux politiques par rapport non pas la recherche de la vérité, mais au fait qu'il y ait un débat public qui permette de prendre les bonnes décisions de politique publique. Quelle est la solution d'avenir? C'est laisser les gens se dépatouiller sur Internet, les malheureux? C'est donner des cours d'éducation critique aux enfants? Ou c'est justement, pourquoi pas, élire démocratiquement les experts?
D'abord, je pense qu'une transparence vis-à-vis des experts est très importante. Et en plus, j'insiste que la forme que Internet a aujourd'hui n'est pas sa forme définitive. C'est très transitoire. Enfin, on parle, la désinformation passe en grande partie par six plateformes, Facebook, Telegram, Instagram, TikTok, etc. Et YouTube, etc. Donc, ces plateformes, probablement, un jour vont disparaître. Enfin, Internet pourrait devenir un outil de grande intelligence collective, mais cette intelligence collective n'est fabriquée ni par la technique, ni par la science, ni par la politique seule, mais par toutes ces instances ensemble. Donc, c'est un effort commun qui fera ainsi que, moi, je suis une optimiste, je pense dans 10 ans, on aura un Internet qui ne sera pas une poubelle de fake news, mais qui sera vraiment beaucoup meilleur pour tout le monde. Enfin.
Gloria Origi, philosophe, merci à vous d'être venue parler au micro de Radio Classique. Je rappelle le titre de votre livre, La vérité est une question politique. C'est paru chez Albin Michel, je vous le conseille vivement. Merci madame. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et puis nos esprits libres aujourd'hui. Routel Krief et Marc Lambron, Radio Classique, il est 8h20.